Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'À Poil. Je suis Julie Gerbet, la créatrice de ce podcast, et aujourd'hui je reçois Camille Fourmont.
Comme j'étais très heureuse d'être dans ces endroits-là, je me rendais compte de la chance que j'avais, donc je crois que j'ai essayé vraiment de toujours vraiment super bien faire mon boulot, tu vois, je sais pas comment dire. Et à chaque fois quand j'ai commencé à sentir que j'étais moins dedans, bah c'est là que j'ai bougé pour faire autre chose. Et donc... quand t'as vraiment la sensation de faire le mieux possible ton boulot et de donner tout ce que tu peux à quelqu'un d'autre, parce que finalement tu sais, c'est pas pour toi que tu le fais, quoi, mais tu peux très bien le faire pour quelqu'un d'autre avec autant de plaisir et d'engagement, mais que on te demande parfois de faire les choses comme toi au fond de toi tu crois qu'il est pas le mieux de les faire, tu vois. Et bah tu dis, bah peut-être que c'est là, à ce moment-là, que la bascule advient, que tu dis, bah tu sais quoi, vu que je pense que là, ce qu'on me demande, c'est pas si bien, bah je vais aller faire bien à ma façon, bah pour moi peut-être.
Camille Fourmont est la Camille de la buvette, le très inspiré bar à vin du 11e arrondissement parisien. Et elle se cache maintenant aussi derrière Baby Love, la nouvelle adresse à burger qui fait sensation. Bref, ces 10 dernières années, elle est devenue une figure du vin et de la restauration parisienne, œuvrant avec intuition et ingéniosité au renouvellement de ce milieu. Avec elle, nous avons parlé d'excitation, de cycle et de Mac... Bonne écoute. Bonjour Camille.
Salut.
La buvette a 9 ans et ton petit dernier Baby Love Burger, quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé dans le milieu de la restauration pendant cette quasi-décennie ?
Mais il y a beaucoup plus de gens qui mangent, on dirait. Non, il y a autant de gens qui mangent, mais peut-être, oui, les habitudes, les gens sortent plus. Ça s'est plus démocratisé, je pense, de sortir pour manger. Enfin, et puis bon, bah, nous, là, on est sur deux produits, en plus, très différents. Mais enfin, c'est un peu ce que je ressens pour essayer de répondre à cette question.
Tu le vois à la buvette aussi, sur la clientèle ?
Ouais. Quand j'ai ouvert il y a 10 ans, c'était vraiment... un truc d'initié, j'aime pas ce mot-là parce que c'est un peu ça, tu vois, ça met dans des cases, mais il y a un panel de clients beaucoup plus large aujourd'hui, et puis je pense que c'est un peu aussi dû au fait que le vin nature intéresse aussi beaucoup plus de gens qu'il y a 10 ans, c'est sûr, ouais.
C'est le grand écart entre les burgers et les vins nature, justement.
Ouais, un peu. C'était ça l'idée, justement. Sinon, faire une deuxième buvette, c'était pas drôle. C'était pas très challengeant, quoi.
Tu trouvais pas le burger de tes rêves à Paris ?
C'est pas tout à fait ça. Le burger, c'était plutôt le rêve de Jérémy que le mien. Donc Jérémy, c'est mon associé. C'est lui qui m'a mis un peu devant le fait accompli. À récupérer le petit local à côté. Ça faisait un moment qu'on avait envie de faire un truc ensemble. Et là, il a pris le local, il est venu me voir, il m'a dit, bon, bah, ça y est, on le fait, notre truc. Et voilà. Et lui, il a vécu aux États-Unis. Enfin, le burger, c'était vraiment son truc de rêve à lui, mais j'ai adoré l'idée parce que justement, c'était si loin de l'univers dans lequel, j'entretiens la buvette depuis presque 10 ans, et donc c'était délicieux de voir réfléchir et créer un univers aussi décalé, dans la même démarche de détails, mais dans une histoire aussi décalée et lointaine de celle de la buvette, je pouvais pas manquer une occasion pareille, quoi. Et burgers, en vrai, au fond de moi, enfin, je veux dire, j'adore les burgers. Qui n'adore pas les burgers, en fait? Dis-moi.
Vous avez eu envie d'apporter votre touche. Vous êtes allé déguster. Vous avez fait la tournée, non, des burger joints.
On a fait ça
aux États-Unis.
On s'est fait des petites vacances recherche et développement juste avant le. En plus, c'était bien. C'était juste avant le premier confinement, donc ça me semble être une époque si lointaine maintenant. Effectivement, on est parti une semaine à Los Angeles tous les deux, et on a été accueillis à bras ouverts par Chris Kroner, qui est un mec génial que j'ai rencontré à Auckland il y a quelques années et qui fait des burgers. Il était venu faire un event
aussi,
à l'automne 2019, ouais. Et il est à Los Angeles maintenant et il connaît ça comme sa poche, et il nous a emmené vraiment dans plein d'endroits, à la fois les plus les plus récents, les plus branchés, si je peux dire, style Burger Never Said Die, et dans des espèces de petits restos vieux de 50 piges où il y a des papis en train de faire des cheeseburgers depuis toujours. Et en fait, c'est ces endroits-là qui nous ont le plus marqués, où on a eu l'impression de manger les meilleurs des burgers. Et voilà, donc c'était pour un business trip, c'était
cool.
C'était plutôt cool.
Et donc vous êtes rentré, vous êtes dit, enfin, qu'est-ce que vous avez voulu faire?
On est rentré très inspiré par ce qu'on avait vu, et surtout ça nous a permis de définir quel genre de burger on voulait faire. Tu vois, parce que alors on adore ici Dumbo, pour ne pas les citer, hein, on va continuer de, enfin, on avoue que pour nous c'est notre meilleur burger de Paris. mais le Smash c'est autre chose, et donc là-bas on a mangé tellement de cheeseburgers un peu old school que on est rentré vraiment en se disant notre ultimate à nous c'est un peu ça, quoi. Donc c'est là c'est ça aussi qui nous a décidé à choisir le cheese comme produit un peu unique qu'on a décliné après. Mais voilà, c'était ça, et puis l'ambiance, quoi, les couleurs, les lumières, il y a un grand mix de tout ce qu'on a appris un peu dans les yeux là-bas. Moi je connaissais pas, en plus c'était ma première fois à Los Angeles, donc je pense que j'étais encore plus sensible. Donc il y a un peu de ces deux choses là, quoi.
Vous avez mis du temps à le monter, le projet, parce que tu parles du premier voyage,
avant le premier confinement,
temps, et c'était à cause du Covid,
c'est ça. T'as entendu parler
cette année?
Non, en fait, on a effectivement commencé à penser à tout ça en fin 2019, donc tu vois, fin d'hiver 2020, tout s'arrête. On avait quand même commencé les travaux. On pensait qu'on ouvrirait peut-être au printemps, et puis après ça s'est enchaîné. On a pris du retard sur les travaux, donc quand bien même il aurait été techniquement possible de réouvrir à la rentrée l'année dernière, ça marchait plus. Et puis après il y a eu reconfinement, voilà. Enfin cet hiver atroce qu'on a tous passé l'année dernière. Et après, en fait, on s'est posé la question de réouvrir au printemps dernier, au moment où tout réouvrait, et puis on voulait vraiment pas faire de delivery, en fait. Moi, dans notre vision de la qualité, on avait du mal à inclure ça, quoi. Donc on voulait
même aujourd'hui et même dans l'idée future, vous voulez pas en faire.
On voudrait vraiment essayer de pas en faire. Ouais. C'est
il doit vous courtiser, non, le...
c'est abusé, mais et puis on est restaurateurs tous les deux, fondamentalement, tu vois. On a fait quand même un lieu, il est minuscule, il y a genre à peine 12 places. Mais même si t'as besoin que de 5 ou 10 minutes pour manger un burger, on avait envie que les gens aient aussi un moment, enfin une sorte de petite expérience dans un lieu qu'on a, voilà, ça, qu'on a taffé.
Pas un cocon, mais c'est un peu, t'es dans un univers complètement différent quand t'es à l'intérieur. Et donc, tu vois que tout a été super réfléchi, des miroirs aux couleurs, au sol, tout.
Donc, voilà. Et puis, je sais pas, moi, j'ai du mal à... Alors j'étais comme tout le monde, hein, enfermée cet hiver à faire de temps en temps ça pour moi à la maison, parce que oh mon Dieu, c'était plus simple à certains moments, mais bon, à chaque fois tu fais ça, tu te sens coupable. Un peu coupable. Ça arrive, c'est trois fois moins bon que le truc auquel t'es habitué quand t'as pris le temps d'aller le manger sur place. Enfin voilà, c'est un peu contrariant. Et puis voilà, donc vraiment, on a fait le choix de pas le faire. Et puis on s'est dit, tu vois, on va se foirer, quoi. Enfin, on était tellement excités tous les deux à l'idée de faire à nouveau une ouverture. Enfin, on en a une chacun à notre actif. On s'est rappelé tous les deux de l'excitation, du délice que c'est d'être au premier jour de quelque chose, tu vois. Enfin, et ça aurait été trop frustrant. Et puis, on se serait tiré une balle dans le pied aussi. Enfin, moi, je voyais déjà les trucs arriver chez les gens, un peu en vrac, à peine chaud. Enfin, on a mis tellement de cœur, on a mis tellement de soins dans les détails et que, on aurait perdu la moitié de tout ça, en fait. Et je pense que les gens se seraient même pas rendu compte que c'était plus mignon ou plus rigolo ou plus drôle ou même, j'allais dire, même pas encore meilleur, tu vois. Enfin, meilleur, je sais pas d'ailleurs, meilleur par rapport à quoi, à qui, on s'en fout, mais ils se seraient même pas rendu compte que c'était bon, si ça se trouve. Donc, voilà. On s'est beaucoup posé la question, mais on a beaucoup résisté. Et puis, bah, quand on voit qu'on a pu faire une vraie ouverture début septembre, quel kiff, quoi.
Et tout ce temps, ça vous a donné, aussi, justement, le temps de la réflexion, de soigner tous les détails dont tu parles, d'imaginer.
Les détails, et surtout, on s'est entraîné, quoi. Enfin, c'est surtout beaucoup. Jérémy en
qui
cuisine.
Qui a fait les recettes?
Vraiment le travail acharné sur la création de la recette du buns, la recette de la sauce, la panure du fried chicken, tout ça c'est Jérémy, quoi. Moi j'arrivais, je croquais dedans, il me disait tu me dis si tu trouves ça comment. Moi j'arrivais, je goûtais mais
deux ans d'essai quasiment.
Mais et puis ouais non mais vraiment, enfin il est acharné pour ce genre de choses, Jérémy, c'est impressionnant. Et même à l'envoi, enfin on faisait des services à blanc, on en a fait pendant on distribuait les burgers dans tout le quartier, on allait chez les voisins, on en voulait un burger parce qu'on en avait fait pour voir si ça sortait bien, si ça sent. Donc c'est vrai que le jour où on a ouvert, on était
rodé.
C'était super, on était rodé,
mais c'est bien, c'est plaisant.
Oui bah Non, c'était... Donc ça nous a au moins laissé ce temps-là, ouais.
Et c'est quoi le secret des burgers Baby Love, alors?
Déjà, il n'y a pas de secret. Si, il y a la sauce un peu secrète, parce que tout le monde aime bien dire qu'il a genre un peu sa sauce secrète. Mais c'est faire quelque chose qui te donne la sensation de confort et...
De simplicité aussi.
De simplicité du fast-food. Sans la dose de culpabilité qu'il y a juste derrière quand t'as craqué et que t'es allé au McDo, en fait. Parce que dans ce burger, il y a juste que des choses bonnes. Voilà, il y a...
Ouais, le pain, vous le faites faire par votre boulanger.
C'est un pain maison. Enfin, alors voilà, on le fait pas nous-mêmes parce qu'on n'a pas la place, tu vois. On n'a pas la logistique pour le produire nous-mêmes, mais c'est une recette que Jérémy a élaborée et qui est faite, dans un labo pour nous. Et donc, c'est un potato bun, c'est fait avec de la purée de pommes de terre, pas des flocons. Et voilà, c'est de la bonne viande française, bien élevée, et puis les pickles maison, et puis...
La sauce maison,
ouais. Voilà, donc c'est assez simple, somme toute, tu vois, c'est pas...
Ouais, c'est ça,
pas
c'est
de,
je trouve
de
qu'il y a...
grand secret.
Mais en même temps, c'est une simplicité qui est...
Il n'y a pas de tomates, parce que les tomates, il n'y en a pas toute l'année, et puis voilà, quoi. Enfin...
C'est une simplicité, mais c'est presque le plus dur à faire, tu vois, créer un produit... délicieux, mais hyper simple. C'est pour ça que vous avez mis aussi autant de temps.
Ouais.
Mais et toi, donc tu t'occupais plutôt de la partie DA, archi.
Tout, un peu de créer le lieu. Après, on a bossé quand même avec une architecte qui s'appelle Juliette Rubel, et pour la citer. Parce que je suis pas architecte et que moi les plans d'implantation de cuisine, tous ces trucs là,
surtout que c'est voilà, je sais pas faire. Donc, hein. Ouais, il fallait bien agencer.
Exactement.
Le truc.
Donc voilà, on a quand même bossé avec quelqu'un dont c'est le vrai métier et le vrai talent. Après, c'est vrai que j'avais des idées un peu arrêtées sur mes inspirations en termes de déco et tout. J'avais envie de ce lieu un peu intemporel, quoi. Enfin. J'étais à New York il y a 2 ans et au coin de Airbnb qu'on avait pris, il y avait une espèce de lieu ouvert jour et nuit. Il était plus beau la nuit parce qu'il était hyper illuminé. Une espèce de gros calico rouge énorme avec des grandes lettres blanches, des néons plein la vitrine justement, et le mec faisait tout, il faisait des wings, des panini, des kebabs, enfin c'était drôle et ça faisait un petit angle comme ça, et à l'intérieur c'était vraiment, tu vois, du mobilier de CHR hyper basique, du lino tout pourri. Et ce lieu, j'ai une espèce de fascination pour cet endroit parce que on pouvait pas du tout dire si ça avait ouvert il y a 5 ans ou il y a 32 ans, tu vois. Enfin, et je suis restée, je sais plus, un moment, Jérémy me dit, mais fais quand même un mood board et tout. Je dis, mais il n'y a pas de mood board, il y a juste une photo, c'est cet endroit, j'ai pas d'autre inspiration. Enfin, j'exagère un petit peu, tu vois, mais j'étais fascinée, oui, par ce côté complètement intemporel. Et on a vraiment taillé des coupes en permanence dans tout ce qui était, voilà, un peu déco et design graphique pour l'identité et tout, après pour essayer d'enlever le plus possible
de
signes de l'époque, voilà, qui puisse ancrer le lieu dans un temps particulier. Enfin, ouais. J'avoue que moi je suis un peu déjà... je suis de enfin la buvette, c'est différent parce que la buvette, elle avait son enveloppe charnelle, ouais, originelle, si je peux dire, tu vois, ces carrelages, ces murs en carreaux blancs.
Ça reste hyper intemporel.
Bah c'est quand même, en vrai, ça date des années 30, ouais. Et j'avais pas le choix. Alors que là, c'était la première fois qu'il m'était donné d'avoir une sorte de cube vide, mais et d'inventer quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lieux qui finissent par quand même se ressembler un peu et oui. Tout. Et voilà, j'avais pas envie de ressentir ça. Et surtout, une fascination inavouée. Enfin, inavouée, en fait, elle est complètement avouée, mais pour ce qui est un vrai fast-food. Genre, on a repris tous ces codes-là, ouais, en fait. Parce que au fond de nous, ce qu'on préfère, c'est le McDo. Enfin, la fascination, elle est pour le McDo, quoi.
Enfin, la simplicité, ouais, effectivement, ce que tu disais du.
Donc, décortiqué un peu tout comment ils faisaient, et on s'est dit, bon, on va le faire, mais peu bon. Plus mignon et bon, ouais, quoi. Ouais, ouais. Voilà.
Jusqu'au Happy Meal, ouais, qui s'appelle Baby Meal chez vous, avec le petit cadeau qui a, ouais, ravi mes filles.
Bah, trop bien. Et c'était le but.
Non, c'est...
Ben oui, c'est un cool, détail, mais c'est un détail, en plus, c'est un détail marrant, cool, trop mignon,
mais
oui, quoi. Enfin,
non, mais en plus, pour les enfants, ouais, c'est hyper important, et les sortir de cette emprise du McDonald's.
Ouais. Bah, écoute, si on a réussi avec le cadeau, à faire ça pour les enfants du quartier, on, ouais, on est trop contents, quoi. Enfin, les petits et les grands, d'ailleurs.
Nous aussi, on veut un cadeau.
On y travaille, figure-toi, mais.
T'es à la tête de deux restaurants aujourd'hui, t'en as rêvé?
Non, je crois pas. J'ai pas rêvé de ça parce que moi je savais pas ce que j'allais faire. Enfin, tu vois, quand j'ai commencé à travailler dans la restauration, je savais pas du tout où ça allait me mener. Donc dire que j'en ai rêvé, non, je pourrais. Non, je suis contente aujourd'hui d'avoir réussi à mener à bien des projets qui m'ont. Et la buvette en l'espace de presque 10 ans, il y a eu des hauts, des bas, comme pour tout le monde, mais. Juste aujourd'hui, je suis contente d'en être là et je pourrais pas dire que j'en ai rêvé, mais parce que je crois justement, j'ai une intuition, notamment par rapport à la buvette, que si ça a pris les tours que ça a pris, c'est justement parce que j'en ai pas rêvé. Tu vois? Parce que si tu penses trop à exactement ce que t'as envie de faire, ça se passe pas forcément. Il y a des choses, il y a une sorte de. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais de magique à opérer autour de la buvette que j'aurais pas pu provoquer. quand bien même j'aurais voulu à tout prix, je... Tu vois? Enfin... Je sais pas si c'est... Non, mais le fait que... Enfin, tu vois, cet endroit, il m'a permis de faire quand même des choses incroyables, quoi. J'ai rencontré des gens formidables, un peu aux quatre coins du monde, et tu vois, comme ça, ça a l'air un peu genre pompeux. Mais c'est vrai! Je me suis retrouvée à avoir 250 personnes dans la rue qui venaient manger une barquette de Danny Bowen.
T'as ouvert en fait quelque chose dont t'avais envie toi.
Ah bah complètement.
Et qui était, je me dis, c'était aussi un peu un pari parce que c'est une buvette.
Oui, c'était un format qui était moins commun à l'époque, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Moi, j'ai malgré tout rien inventé. Enfin, tu vois, ce qu'on a appelé à l'époque des caves à manger, je veux dire, enfin, le verre volé en était une 10 ans plus tôt.
Mais il y a plus de cuisine là-bas.
À l'époque, il y en avait pas tellement, enfin, hein, mais Nadine, qui aujourd'hui, alors c'est le grand hasard, qui est ma collaboratrice aujourd'hui, elle a ouvert le nouveau-né dans un espace deux fois plus petit qu'ici, où pareil, elle servait un coup de sauce et un petit bout de fromage pour pouvoir partager les vins avec les gens, parce qu'elle avait compris que ces vins étaient tellement décalés, tellement inattendu qu'il fallait prendre le temps de les expliquer aux gens. Tu pouvais pas genre vendre une bouteille à emporter de vin nature sans à quelqu'un qui en avait jamais bu ou goûté sans la moindre explication. Elle l'explique quand elle raconte pourquoi elle a, enfin pourquoi et comment elle a ouvert le nouveau-né au tout début. Et ça c'était, je sais plus exactement, mais c'était il y a quasiment 20 ans aussi. Donc je veux dire ce format Pierre Jeancou, tu vois, enfin ça existait déjà.
Mais d'avoir un lieu. Enfin, oui, il existait. Je trouve d'avoir un lieu quand même avec une cuisine bricolage.
Ouais, bah, enfin, avec pas de cuisine surtout.
Pas de cuisine. Pas de cuisine. C'était c'est quand même osé.
Je sais pas. C'est parce que moi je savais pas faire autre chose, tu vois. Et c'était aussi l'obligation par rapport à la forme du lieu, le fait de pas avoir de licence de bar. Si tu veux garder les gens pour qu'ils aient le temps de prendre un petit verre avec toi, entre guillemets, et ben il faut qu'ils mangent quelque chose. Moi je suis toujours partie du principe que j'étais pas cuisinière. Et puis en plus, j'ai beaucoup trop de d'amis dont c'est le vrai métier, le vrai talent aussi, enfin autour de moi pour avoir jamais eu envie de m'aventurer sur ce genre de terrain parce que je continue de considérer que je sais pas faire, mais par contre avec les petites expériences que j'ai accumulées, j'ai eu la chance de voir des choses quand même hyper intéressantes entre bosser pour quelqu'un comme Iñaki ou d'autres. Je me suis dit je peux quand même trouver 2-3 bons trucs à partager. Enfin, je peux sans cuisiner prétendre à nourrir les gens en tout cas. Voilà.
C'est sortir plutôt ça aussi, la différence. T'as réussi aussi à sortir, tu vois, de la planche de charcuterie et de fromage.
Ouais, c'était un peu aussi. Oui, dès le début, j'avais envie qu'il y ait un peu d'autres choses
frais.
Oui.
De saison qui change, qui est des légumes.
Oui, alors ce qui est bizarre, c'est que 10 ans plus tard, le cercle est un peu vicieux parce que en fait, c'est quand même ça que les gens veulent. Et je me retrouve à changer la carte beaucoup moins souvent qu'avant parce que les gens veulent les choses classiques d'ici, tu vois.
Ouais.
Et donc tu te dis on est quand même là pour leur faire plaisir, donc je vais pas, tu vois, je vais pas les enlever de la carte, alors que la burrata, les haricots, ils s'y attendent tellement et ils ont tellement envie de goûter ça que tu vas pas. Ouais. Ah non, j'ai changé ma carte, désolé les gars. Enfin, alors des fois pour moi, ça peut être un peu,
frustrant.
Oui, frustrant. J'allais dire ennuyeux, mais frustrant, c'est le bon mot. Mais il faut se rappeler que fondamentalement, on est quand même là pour que les gens soient contents, quoi. Donc voilà. Donc c'est finalement, tu te retrouves presque dans un truc où c'est les gens qui décident. Voilà.
T'as commencé la restauration par hasard?
Ouais. J'avais besoin de.
Pendant tes études.
Ouais, exactement. Puis je les ai vite arrêtés.
Au Mama Shelter?
Non, avant le Mama, j'ai passé 2 ans dans un petit bistrot, juste à côté du Mama, dans le même quartier.
J'ai zappé une étape.
Ouais. Non, rue Saint-Blaise, tu vois, la petite rue qui descend ouais. Quasiment en face. Je bossais dans un bistrot, là, et c'est là que les gars du Mama, en fait, pendant leurs travaux et tout, venaient tout le temps bouffer. C'est là que je les ai rencontrés et qu'au moment de l'ouverture, ils m'ont débauché. Donc, il y a eu ces deux années-là avant, ouais.
Donc, Mama Shelter, puis le Dauphin.
Ouais, Dauphin.
Deux ans.
Un tout petit coup de château, là-bas. Et puis le ouais. Dauphin. Ouais, pendant deux ans. Quasiment l'ouverture, et deux ans, ouais.
Et qu'est-ce qui t'a décidé à abandonner tes études pour la restauration?
Bah, c'est une histoire un peu longue, mais ça faisait déjà 5-6 ans que je faisais mes études. J'ai été un peu lente.
Tu les faisais traîner.
Ouais, je les faisais un peu traîner, mais j'ai voyagé et tout, donc. Et en fait, je rentrais dans une voie de quelque chose d'extrêmement pointu. Et puis surtout, en fait, avec le temps qui passait, j'avais commencé ce petit boulot. C'était vraiment un truc d'appoint que je me rendais compte que j'aurais vraiment du mal à professionnaliser, quoi. Et en commençant ce petit boulot, je me suis rendu compte aussi que j'aimais bien bosser. Enfin, peut-être j'étais arrivée à un moment où j'aimais bien bosser. Et les deux gars pour lesquels je travaillais dans ce bistrot me voyaient, voilà, retourner tout ça dans tous les sens et me poser plein de questions. Et j'étais nulle en service. Au début, c'est la cata, quoi. Le mec m'a dit le premier jour, il me dit, bon, t'as fait tout à l'envers. Mais c'est pas grave, si tu reviens demain et que t'essayes de tout remettre dans l'autre sens, normalement ça devrait... Alors je sais pas, franchement je sais pas pourquoi ce jour-là il s'est pas dit, elle c'est une catastrophe, laisse tomber, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Peut-être il avait personne sous le coude, mais en tout cas voilà, je suis retournée le lendemain et puis ça a continué,
t'as inversé.
Quoi. Voilà. Et un jour au bout de, je sais pas, 6 mois de questionnement, ils m'ont dit, écoute, nous on pense que t'es bien là, on pense que voilà, que t'es bien dans ce que tu fais, et puis ils m'ont proposé un vrai boulot en fait, quoi. Donc là j'ai remué le truc dans tous les sens, j'ai fait genre ah non. C'est venu jeter un grand pavé dans la mare de toutes mes certitudes durement acquises les mois précédents, et en fait j'ai commencé à bosser avec eux.
Et, voilà. Et le vin, c'est arrivé comment?
C'est arrivé doucement là. Avec un des deux patrons, c'était pas spécialement, tu vois, nature ou quoi. On en parlait pas beaucoup à l'époque, de toute façon. Mais c'était quand même déjà, tu vois, à tendance plutôt vigneron, plutôt artisan, plutôt. Donc je faisais de temps en temps des petites dégustes comme ça. Mais c'est surtout au Mama Shelter, parce qu'au Mama Shelter, au tout début, c'était Monsieur Sandorins,
oui,
qui faisait la carte. J'ai eu la chance de rencontrer ce grand homme-là. Et lui, il bossait depuis très 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 longtemps avec une amie à lui, qui est agent de vigneron, qui s'appelle Daniel Géraud, et qui est en plus, d'être sa collaboratrice, était vraiment sa pote de toujours. Je sais pas si on peut dire pote, mais et c'est surtout grâce à elle en fait que, enfin, à l'époque, tu vois, il y a longtemps déjà, il était très connu pour son, comment dirais-je,
les accords,
ouais, pour son
aussi,
soin et son attention aux accords, ouais, entre les mets et les vins. Mmh. Et finalement, quand tu remontes un peu, c'était pas quand il a commencé à vraiment accorder beaucoup d'importance à ça, il y avait pas tant de gens qui faisaient ça. Et c'est grâce à cette complicité avec Daniel. Et Daniel est arrivé dans son sillage au Mama Shelter. Il l'a présenté un peu. Et je suis tombée sur elle. Le directeur du resto m'a dit, ah bah ça a l'air de t'intéresser toi, allez t'as qu'à t'en occuper. Alors que franchement je connaissais rien, sauf que je me suis retrouvée un peu sous l'aile de cette femme qui est aujourd'hui la personne à laquelle je dois à peu près tout ce que je sais sur le vin. Et je sais pas, voilà, quelle tendresse particulière elle a eu pour moi à ce moment-là, mais elle m'a vraiment pris sous son aile et a appris des tas de choses et elle m'emmenait vraiment, sans transition, elle me présentait Emmanuel Giboulot Didier Barral, et elle m'emmenait au primeur de Renoncourt le lendemain au Bristol, quoi. Enfin, donc, et il y avait cette ouverture, qui fait beaucoup aujourd'hui, enfin, encore aujourd'hui dans mes choix, et j'ai aimé être éduqué au vin sans
œillères.
Tu vois, sans œillères, sans étiquette, sans chapelle. Enfin,
et toi, justement, tu dis quoi, vin nature, vin vivant, vin d'auteur, vin.
Si je pouvais, je dirais rien. Après, effectivement, la claque vin nature, elle est arrivée plutôt au Châteaubriand et au Dauphin, où là, c'était un peu l'explosion, où je me suis rendu compte que voilà, c'était bien plus que ce que je croyais. Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai eu cet élan spontané plutôt vers ce genre de vin-là que des choses plus classiques ou conventionnelles. Mais en essayant toujours, depuis tout ce temps, de pas se départir d'une certaine objectivité. Et surtout ces dernières années où c'est devenu particulièrement la mode, quoi. Enfin, on va pas, n'ayons pas peur des mots, le vin nature, c'est grave la mode, quoi. Enfin, donc je sais pas.
Comment
je
tu gardes, tu vois.
C'est vrai que j'ai plus de, pour répondre à ta question, j'ai quand même plutôt tendance à parler de vin naturel, ou vivant, ou d'auteur. Enfin, oui, moins, j'avoue. Plutôt de, je dis vin naturel, je crois que c'est un peu le.
Et ta carte, tu l'as fait comment? Enfin, tu t'essayes de rester, ouvert, tu te revendiques vraiment avoir une carte hyper
je suis plutôt quoi. Enfin, c'est vrai que j'ai tendance à parler d'artisanat vigneron, j'utilise beaucoup cette expression là plutôt. Et après oui, mais je mon goût c'est affiné et c'est vrai que j'ai du mal à boire autre chose que des vins qui sont faits de manière propre, respectueuse de l'environnement, de l'être humain. Mais par contre, je sais qu'il m'est parfois donné de goûter des choses plus classiques. Enfin, il y a aussi des choses plus classiques qui sont extrêmement bien faites, quoi. J'essaie juste de pas faire d'amalgame, quoi. J'essaie. Et puis même si, en fait, si tu parles de chapelle ou de mini dogme. Enfin, je veux dire, il y en a même au sein du vin nature en lui-même. Donc, j'essaye de pas m'arrêter à ça.
Tu
même si on peut dire
aujourd'hui
qu'à la buvette, il y a effectivement que du vin naturel. Mais
tu fais des découvertes encore?
Ouais. Alors, il y a des moments de, en 10 ans, il y a des moments de ta vie où t'es plus ou moins, tu vois, en mode curieux ou découvreur. Ça dépend un peu. Après, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est chouette avec cette expansion comme ça du vin, de la curiosité, du désir des gens pour le vin naturel, puisqu'on l'appelle comme ça, du coup, on a dit, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de vignerons naturels. Donc il y a plein de choses nouvelles effectivement. Alors cette dernière année et demie, 2 ans, c'était un peu plus compliqué, tu vois. On a raté tout un tas de dégustes, de salons. Mais oui, il y a, j'allais dire,
continuer à parcourir
le vignoble. Il y a presque
plus
moyen de, enfin, il y a encore plus de choses à découvrir aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quoi. Enfin, je trouve.
Mais ce qui est difficile, j'ai l'impression, tu vois, c'est à la fois un grand et un petit milieu.
C'est un tout petit
milieu.
Il est
de plus
en plus
aussi
visible, mais il est encore très petit.
Ouais. Il y a des agents, il y a des
c'est un peu plus organisé.
Tu vois, c'est organisé. Est-ce que tu arrives encore à faire des découvertes?
Avec l'expansion que ça a pris, c'est un peu plus organisé, et puis c'est un peu plus business aussi, hein.
Ouais. Mais du coup, est-ce que ça perd de son charme ou pas? Je sais pas. Non.
Vu que je suis un peu, je suis un peu à l'ancienne et tout, j'aurais tendance à dire, oui, c'est comme le rap, c'était mieux avant, quoi. Mais il faut voir le bon côté des choses aussi. Et puis si ça intéresse de plus en plus de monde et, j'ai dire, c'est aussi parce qu'on a bossé pour ça.
Ouais.
Enfin,
oui, mais tu vois, mais après, des fois, t'as un espèce de contre,
Bien sûr qu'il y a un revers de la médaille.
Ouais, un revers de,
Pardon, je vais balancer un peu, mais à partir du moment où Action Bronson boit une bouteille en particulier sur une plateforme, internet qui fait des millions de vues, 5 ans plus tard, t'as encore des gens qui poussent la porte de ton établissement pour avoir cette bouteille-là et pas une autre. Donc ça, c'est le revers de la médaille, ouais. Mais
disons que tu vois, avec toute cette organisation, je me dis, il y a des vins qui deviennent tout de suite un peu inaccessibles, ou des vignerons qui deviennent... Mais bon, c'est pareil, c'est dans le milieu de la restauration.
Ouais, hein, c'est un des revers de la médaille avec, aussi, effectivement.
Avec tout ce qui s'est passé, ce qu'on disait, toute l'évolution des 10 dernières années, c'est exactement la même chose. Mais tu vois, ça devient... Il y a des choses qui deviennent un peu...
Mais c'est ce qu'il s'appelle un phénomène de mode.
Ouais. C'est important, la relation humaine.
Bah ouais. Ouais. Bah
enfin oui, tu alors, disons que toi t'arrives à l'avoir avec les vignerons avec qui tu travailles.
Alors, il y en a quelques-uns, des fois je fais des découvertes de trucs que j'ai envie de référencer et tu vas d'abord avoir le vin parce que t'as pas forcément l'occasion de provoquer la rencontre dans la seconde, enfin. Et mais oui, moi je sais que quand je regarde la sélection là, il y a je sais pas, il y a effectivement les trois quarts des vignerons avec lesquels je travaille qui sont des gens que je connais, que enfin, et puis dans ces trois quarts là, il y en a une moitié qui sont des amis, quoi. Et puis il y a des histoires quand même de fidélité, de quand t'as eu les toutes premières bouteilles de quelqu'un sur tes étagères, ça crée des liens, quoi. Enfin, oui, non,
t'es fidèle.
C'est très important. Ouais, moi, je suis...
t'es fidèle dans ton,
ah moi, je suis
ta sélection.
Je suis même des fois, ça me joue des tours presque. Non, mais c'est vrai.
Qu'est-ce qui était important pour toi quand tu as ouvert la buvette? C'était d'avoir ton projet, de te lancer.
Je sais pas si. Alors peut-être si j'avais quand même le caractère de quelqu'un de plutôt indépendant. Mais je sais pas si je le percevais vraiment. Mais si j'essaye de me souvenir de ce que je ressentais à cette époque-là, c'est que alors j'ai eu vraiment des expériences professionnelles globalement géniales, quoi. Enfin, j'ai eu de la chance, tu vois, dans mon parcours, parce que travailler pendant 6 ans dans la restauration, c'est pas forcément 2 ans dans un petit bistrot de quartier super sympa, puis 2 ans dans un hôtel au concept complètement novateur qui vient juste d'ouvrir et qui attire plein de monde, puis dans un des restos les plus sublimes de Paris par un des chefs les plus géniaux, qui voilà, pareil, dans un endroit où j'ai fait des tas de rencontres formidables, enfin j'ai eu du bol, quoi. C'était génial parce que j'aurais pu bosser dans une grande brasserie à Gare de l'Est, puis un peu au McDo. C'est ça aussi, travailler dans la restauration. Comme j'étais très très heureuse d'être dans ces endroits-là, je me rendais compte de la chance que j'avais. Donc je crois que j'ai essayé vraiment de toujours vraiment super bien faire mon boulot. Tu vois, je sais pas comment dire. Et à chaque fois quand j'ai commencé à sentir que j'étais moins dedans, bah c'est là que j'ai bougé pour faire autre chose. Et donc quand t'as vraiment la sensation de faire le mieux possible ton boulot et de donner tout ce que tu peux à quelqu'un d'autre, parce que finalement tu sais, c'est pas pour toi que tu le fais, quoi, mais tu peux très bien le faire pour quelqu'un d'autre avec autant de plaisir et d'engagement, mais que on te demande parfois de faire les choses comme toi au fond de toi tu crois qu'il est pas le mieux de les faire, tu vois. Et bah tu dis, bah peut-être que c'est là, à ce moment-là, que la bascule advient, et que tu dis, bah tu sais quoi, vu que je pense que là ce qu'on me demande c'est pas si bien, bah je vais aller faire bien à ma façon, bah pour moi peut-être.
Ouais.
Voilà. Je sais pas si c'était venu, clair, si, comme si, très... tu vois. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Tu vois.
Quand t'as... Ouais, c'est aussi un truc d'expérience où t'as envie de te faire confiance. Enfin, tu sais que tu dois te faire confiance.
Oui, oui,
oui. Peut-être.
Ouais, peut-être. Ouais.
C'est que, enfin, bon, en tout cas, t'as envie d'essayer.
Ouais. Voilà. Oui, je dirais que c'était surtout ça.
J'ai une question qui a rien à voir. Je passe du coq à l'âne. Non, mais je crois qu'on avait déjà eu cette discussion et c'est un truc, je trouve, qui est assez intéressant dans le milieu de la restauration et non, c'est ça. Comment tu te protèges de l'alcool quand t'en vends? Enfin, tu vois, quand tu travailles dans la restauration.
Bah, je pense que tu passes. Non, mais moi, je trouve pas que ce soit tabou du tout.
Mais
je trouve que c'est assez... Je pense que tu passes forcément par un moment où tu fais pas gaffe et où tu t'en protèges pas, tu vois. Enfin, surtout le moment un peu de la... Enfin, de la découverte un peu du truc, c'est trop facile, quoi. Enfin,
bah oui.
C'est tellement accessible et puis ça rentre dans une espèce de mœurs, quoi. Enfin, et de je sais pas si on peut dire de mœurs professionnelles. Enfin,
bah oui, oui. Et puis c'est juste que de pas, enfin, tu vois, de pas boire. En plus, les clients, c'est festif.
Ouais, vois, ouais. Alors ça. Moi, je sais que j'ai quand même j'ai toujours eu cette espèce de principe, et je peux pas dire d'où ça vient, mais de jamais boire quand je bosse.
C'était cette discussion qu'on
d'avoir
avait
un verre derrière le comptoir, là, ça me j'ai vu faire un peu, et j'ai toujours un truc, ça me rebutait même. Comme je suis un peu vieux jeu et bourré de principes, ça c'était en termes d'image que ça me plaisait pas, quoi. Après, par contre, j'ai picolé après le service comme tout le monde pendant des soirées, voire des nuits entières. Enfin, parce que c'est compliqué en plus, quoi. Tu bosses jusqu'à 1h, 2h du mat, voire un peu plus. Les gens normaux sortent du taf à 17h, 19h, j'en sais rien. Ils vont faire des courses, ils vont chercher leurs enfants, ils font à manger, et ils passent leur soirée, et puis après ils regardent un film, et après ils vont se coucher. Bah quand tu finis ta journée de boulot à 1h du mat, il y a rien à faire de tout ça. Donc tu restes un peu avec tes collègues ou tes potes, et puis tu bois des coups, et puis si t'as envie d'aller te changer les idées et d'aller quelque part, bah le seul truc qui est ouvert à 2h30 du mat, c'est plutôt une boîte de nuit qu'un supermarché, tu vois. Enfin, non mais, donc c'est vite fait, quoi. Après, moi j'ai eu des grands moments festifs et arrosés de d'alcool. Surtout quand tu bosses dans des lieux où effectivement le vin nature coule au robinet, c'est facile, quoi. Puis en plus tu culpabilises pas trop parce que en plus je bois des bons trucs, tranquille. Et après ça m'empêchait pas vraiment de continuer à me tenir à pas boire pendant le service.
Ouais, ça a toujours été un principe.
Ça a toujours été ouais. Et après ici, pendant la buvette, il y a quelques années, j'ai eu un gros coup de fatigue et j'ai perdu mon odorat. Donc c'est devenu extrêmement handicapant au quotidien pour bosser.
Avant le Covid.
Ah ouais, c'était bien avant, ouais. Ouais. Et en fait, j'ai pas tout à fait perdu mon odorat. J'avais une sorte de trouble olfactif qui s'exprimait qu'au contact du vin.
Du vin.
C'est-à-dire que quand je chantais un verre de vin, ça sentait le pot d'échappement de mobilette, quoi qu'il arrive. Alors que je pouvais sentir, tu vois, des écorces de mandarine ou un bouquet de fleurs, je chantais tout à fait correctement. Donc je pense que c'était plutôt
psychosomatique.
Ouais. Non mais c'est vrai. J'étais pas bien à ce moment-là. J'étais à un moment d'ici où j'étais dans un gros creux de vague et où tout était très dur. Et je pense que vraiment c'était un message de mon corps à ma tête ou de ma tête à mon corps, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que je buvais automatiquement, en fait, que j'étais je m'en rappelle très bien, j'ai dîné avec tout un grand groupe de copines qui étaient mes super copines de la restauration que j'adore. On a fait un apéro, je sais plus où, mais après on a dîné au Châteaubriand. Et comme voilà, on était genre trois sommelières, on commandait des tonnes de bouteilles et tout, et ça passait comme ça, et on goûtait même plus, et après on est allé aux deux amis boire les coups de après le dîner et tout, et j'avais un verre devant moi, et puis j'essayais de le boire, mais j'arrivais pas, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'à quel point je buvais ça presque comme de l'eau, à quel point en fait il y avait zéro plaisir à boire ça plutôt, quoi, qu'autre chose. Et j'ai eu un peu peur. Et c'est arrivé un peu tout au même moment. Donc, je me suis dit, mais en fait, on a accès à des choses quand même rares, délicieuses, bien faites et tout. Mais à automatiser cette consommation, on perd complètement la dimension du plaisir, alors que ça doit rester du plaisir. C'est comme, mais j'avais le même rapport avec la bouffe à ce moment-là. C'est-à-dire que j'allais au resto tout le temps. Je prenais même pas mon petit déjeuner chez moi. Et donc, en fait, quand tu regardes ta montre à 22h en disant, attends, vite, on va manger chez Double Dragon et après on reviendra faire la vaisselle et faire la fermeture. Non, parce que Double Dragon n'est pas une cantine où tu vas 5 fois par semaine. Parce que si tu vas 5 fois par semaine chez Double Dragon, tu perds complètement, je pense à ça parce que c'est en face et qu'on les adore et que, mais tu perds complètement la dimension du plaisir que t'es censé éprouver à aller chez Double Dragon ou ailleurs, tu vois. Et pour l'alcool, c'était pareil. Donc j'ai arrêté de boire pendant 6 mois. Et mis à part quelques railleries de tout le monde, parce que vu que quand tu bosses dans le vin, t'es pas censé arrêter de boire. Quand tu commandes une tisane ou un Perrier, on se fout un peu de ta gueule. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, tu passes au-dessus, c'est pas très gênant. Donc j'ai pas bu pendant 6 mois jusqu'à un jour dont je me souviens très bien aussi, où j'étais avec une copine, toujours de la même bande, à la cave Septime. J'ai vu une bouteille sur l'étagère, un vieux millésime de Seb Riffaut, les Sancerres de Seb Riffaut. Puis vraiment pas cher, parce que Théo, il a quand même ça, qu'il répercute pas tellement ses années de garde sur les prix de ses vins à la cave, et quand même, ça en fait des bons deals.
Plans.
Si tu... Ouais, exactement.
Toi, tu connais.
Et là, j'ai dit, putain, j'ai envie de boire ça. Ouais. Alors que j'étais en train de boire un jus d'abricot, quoi. Enfin, et on a ouvert la bouteille, et là, j'ai ressenti normalement. Alors après, ça a été pendant quelques temps un peu deux pas en avant, un pas en arrière et tout, ce truc d'odorat, mais...
L'envie
j'ai l'impression revenu. D'avoir retrouvé le plaisir.
Ouais.
Alors je te cache pas que ça enchaîné avec une grossesse, un bébé, un Covid où j'étais à la campagne toute une première partie, tu vois, enfin un peu loin du milieu parisien et de mon boulot, je bois beaucoup moins qu'avant. Ouais. Mais j'ai retrouvé cette notion
cas,
de plaisir.
Ouais, c'est le plaisir.
Et maintenant, quand j'ouvre une bouteille ou que je choisis un verre, eh ben, je salive, quoi. Enfin, je sais que je vais me faire kiffer. Et ça m'arrive de temps
aussi,
en temps de préférer ne pas reprendre un petit verre comme ça en plus. Parce que il est pas trop par rapport au fait de, tu vois, de consommer de l'alcool. Enfin, ça, en fait, moi, je devrais peut-être pas dire ça parce que, mais je suis en bonne santé, je m'en fous, je peux boire 3 verres ou 4 au lieu de 2, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment par rapport à cette notion de plaisir que t'es censé en retirer, sinon ça, enfin, sinon c'est moins bien, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question.
Bon, allez, on va passer à l'aller-retour. Ton plat préféré de tous les temps.
Putain, c'est dur. Ah, j'ai goûté un truc incroyable en Espagne dont je me souviendrai toute ma vie, j'en ai mangé qu'une fois, ça s'appelle la caldereta. C'est de la langouste cuite dans une sauce tomate à la fois fraîche et concentrée, des gros éclats d'amandes fraîches parce que c'était la saison, donc côté un peu croustillant mais juteux, et dans un riz trop cuit, collant, tu vois. Et en fait, la langouste, elle est cuite entière, mais dans la sauce. Donc si tu veux la manger, faut mettre les doigts dedans et t'en as partout parce qu'il faut la décortiquer dans la sauce tomate. Tu t'en fous partout, mais j'ai mangé ça qu'une fois. J'ai un souvenir impérissable de ce plat. Je vendrais mon âme pour en manger là au déjeuner tout à l'heure, quoi.
Ton livre de recettes fétiches.
J'y pense à deux choses. J'adore le bouquin de Andrew Tarlow qui s'appelle Dinner at the Long Table. Andrew Tarlow, c'est le génial fondateur de Diner à New York. Marlo Hanson, Marlo and Daughter et tout. Il a fait un bouquin, qui est presque autant un bouquin de d'art de vivre que de cuisine, mais je sais pas, j'adore ce livre, il est hyper inspirant et j'aime beaucoup aussi le livre il y a eu un lieu à San Francisco qui s'appelle Bar Tartine qui n'existe plus alors que les tartines existent encore et il y a un bouquin vraiment sur les techniques. Ça s'appelle, je crois, Bar Tartine, Technique and Recipes, et qui est une sorte de, enfin, de bible un peu, enfin, en tout cas, un livre dans lequel je trouve toujours plein d'inspiration et d'envie, et enfin, voilà, j'aime beaucoup, aller farfouiller là-dedans quand je suis un peu en panne.
Le dernier vin découvert.
C'est pas tout à fait le dernier, mais c'est celui dont j'ai envie de parler. C'est un domaine qui s'appelle la Petite Odyssée. C'est dans le sud de la France. C'est un petit mec qui fait ses premiers millésimes. J'ai eu l'occasion de goûter un pétillant et un petit rouge qui s'appelle Fury, qui m'ont énormément plu, qui m'ont touché, qui m'ont charmé vraiment.
Le truc le plus bizarre que t'aies mangé ou bu,
c'était chez Kobe des Rameaux. Il y a des années. Et c'était du canard qui avait été maturé pendant plusieurs semaines. Et je l'ai mangé. Malgré l'odeur, le goût. Je l'ai mangé parce que je me suis dit, si ce mec-là met ça dans mon assiette, je dois lui faire confiance. Tu vois, je peux pas, c'est sûr que ce mec-là met dans mon assiette quelque chose que je peux manger. Mais c'était de l'ordre du challenge, quoi. C'était
dur. Et alors?
Et bah, c'est passé, tu vois, mais c'était une drôle d'expérience.
Ton dernier meilleur repas?
J'étais à Casa Camara il y a un mois. C'est un resto en Espagne, au-dessus de Saint-Sébastien, dans un petit estuaire. C'est un resto de cuisine espagnole familiale où on a mangé juste des clams persillés, du turbo au beurre noisette et du homard et c'est tout. Enfin, tu vois, vraiment quelque chose de super simple. Et j'adore cet endroit. Cet endroit est vraiment magnifique. Et c'est ça que j'aime, des choses... Tout simple. Ouais, j'y étais allée il y a 3 ans et je viens de passer 3 ans à repenser que à retourner dans cet endroit et j'y suis enfin retournée là il y a quelques semaines et c'était un vrai délice.
Le chef ou la chef à suivre?
Il y en a pas que un, que une. J'ai une affection particulière pour Chloé Charles. Parce que déjà, c'est une copine depuis longtemps. Et puis, je la trouve vraiment remarquable dans ses engagements, voilà, de ce truc d'école comestible qu'elle fait avec Camille. C'est son engagement sur le recyclage, le pas de déchets, le pas nourrir les poubelles et tout. J'aimerais faire pareil, tellement je trouve ça admirable et je me sens du coup complètement nulle à côté et voilà, enfin non mais puis c'est quelqu'un que je trouve tellement entier, elle est tellement généreuse et tout, je l'adore. Voilà.
Ta musique pour cuisiner? Oh, pour servir des vins.
Bah ici il y a pas de musique, enfin tu vois la buvette, il y a jamais une musique, c'était une volonté de ma part. Après moi j'ai des goûts assez hétéroclites. Non mais j'écoute un peu tout, enfin j'écoute, tu sais, la musique de Fantasia, là, le dessin animé.
Oui, oui.
Quand on était petits, d'ailleurs, quand nos parents étaient petits, mais je sais pas, en ce moment, j'écoute ça. Je trouve ça marrant. Donc, très classique, en fait.
Un compte Instagram que t'aimes suivre?
J'en suis pas beaucoup. Je suis surtout mes vrais amis, tu vois. Les vrais gens que je connais. Non,
tu regardes pas.
Et bah, dans les vrais gens que je connais et dans les vrais amis, j'aime le compte de Alix Lacloche.
C'est marrant, j'ai repensé en préparant l'interview, au pop-up qu'elle avait fait ici.
Ouais, qui a un univers tellement personnel, tellement, et ses photos Instagram sont toujours à la fois très brutes et très poétiques et ouais, voilà, bah tiens, c'est sans hésiter. Voilà.
Ok, bon, l'aller-retour est terminé. Sans être cuisinière, t'as un don pour les bricolages, les assaisonnements. C'est ça qui a plu, je pense aussi, dans ce que tu proposais, ce qu'on disait tout à l'heure, la fraîcheur, sortir de peut-être ce qui était déjà vu. Est-ce qu'il y a une recette qui représente ce qui représente ça, qui représente la buvette?
Les haricots. Les haricots, ouais. Que je peux plus enlever de la carte sans que les gens fassent des manifs devant. Il y a plus d'haricots, pourquoi il y a plus d'haricots, quand est-ce que ça revient les haricots? Donc finalement maintenant ils sont là, ils sont toujours là. Ouais, c'est fou ce
les
truc.
Les haricots aux petites fleurs.
Ouais, alors c'est plus souvent des agrumes que des fleurs d'ail des ours parce que ça, ouais. Malheureusement la saison est beaucoup plus courte. Mais ouais, c'est cette espèce de conserve espagnole génialissime, de gros haricots blancs hyper tendres, impeccablement cuits et sur lequel on rajoute juste de l'huile d'olive, du sel, enfin des flocons de sel un peu croquant, et on râpe un zeste de citron ou de bergamote si c'est la saison, d'un agrume un peu plus mignon, un peu plus rare quand c'est la pleine saison. Et les gens adorent ce truc parce que je pense qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, bah c'est un peu décalé de classique charcut de fromage.
Comment t'as eu l'idée de faire ça?
C'est un produit que Fred Hermé m'a fait découvrir. Encore une fois, pour rendre à César ce qui est à César, c'est elle qui m'a dit « Ah, tu devrais essayer ce truc, c'est vachement bien. » Et voilà, c'est elle qui m'avait, je crois, enfin, fait goûter. Et je pense que les gens... En fait, c'est assez inattendu, ce truc de haricots blancs.
Pense à des, je sais pas si on veut
quelque chose, on pense à des olives, ou des, enfin, en tout cas,
en petite grignote comme ça, qui soit ni de la charcute ni du fromage. Et effectivement, mis sous forme d'un petit
tapas
froid, c'est pas forcément automatique. Enfin, c'est pas forcément évident. Et donc, les gens ont souvent cette réaction de dire, oh, j'ai jamais pensé à faire ça chez moi. Ouais, tout simplement, tu vois. Enfin, je crois que c'est ça le truc qui touche les gens, c'est dire, oh, mais je peux. Enfin, parce qu'en vrai,
tu peux le faire.
Ah ben, c'est hyper. Enfin, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Tu vois. Et je crois que ici, les petites choses comme ça, les ces petits bricolages, comme tu dis, et ben, c'est ça qui touche les gens. Disent, enfin, tu vois, tout le monde peut battre une motte de beurre avec des paillettes d'algues dedans pour faire un beurre aux algues, quoi. Tu vois. Non, mais c'est pas. C'est tout ce que je fais ici nécessite aucun savoir-faire, aucune technique culinaire, parce que
ouais, c'est des
fois t'ouvres un bouquin
en fait,
de cuisine
c'est un assemblage
d'un chef et bah il y a enfin je veux dire cuisiner il faut parfois un peu de technique et donc c'est ça peut être intimidant, ça peut être tu vois, c'est même moi hein, je suis la première à des fois ouvrir des bouquins, ah bah non je vais pas faire ça en fait quoi, enfin non mais c'est vrai, donc je pense que c'est ça qui touche
c'est
les gens
un peu, finalement c'est assez enfin, tu vois, c'est assez semblable peut-être au burger que vous faites
c'est de
à côté. C'est de l'assemblage.
Ouais, il y a un petit peu plus de prep.
Il y a plus de cuisine.
Il y a un peu plus
non,
de cuisine.
Non, mais
sur les burgers,
tu vois, dans la simplicité, en fait, il y a une simplicité apparente, mais avec des idées et des détails. Beaucoup de détails.
Oui, oui, beaucoup de détails. Ça, c'est sûr. Je peux pas. C'est un mot qui est dans le.
Dans ton ADN.
Dans mon ADN. C'est ça.
Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi au sens large aujourd'hui?
Pour quelqu'un comme moi, c'est carrément un art de vivre. Je cuisine déjà pas quasiment jamais pour moi, tu vois. Et donc aujourd'hui, je cuisine pour ma fille, je cuisine pour mes amis. Donc c'est un vecteur de partage. De partage, bon, bah, quand même, la plupart du temps avec les gens que t'aimes et...
Et qu'est-ce qui guide tes envies, tes projets? Tu parlais tout à l'heure de faire plaisir aux gens, finalement, tu vois, en n'enlevant pas les recettes, même si toi, ça te saoulait de faire tout le temps ces haricots,
ouais.
Par exemple. Hein, tu vois, qu'est-ce qui guide
C'est vrai que ici, en ce moment, dans cette démarche-là, je sais pas si je devrais dire ça, mais... Bah pour moi c'est facile un peu, ça tourne tout seul quoi, ça me challenge pas trop et donc mais je ressors un peu d'un truc compliqué là et j'ai un peu envie de j'ai de nouveau envie de faire plus de choses pour ici donc j'ai voilà maintenant que Baby Love tourne et roule j'ai un peu envie de revenir ici, alors j'ai pas changé le concept hein, mais de me remettre peut-être effectivement comme tu disais tout à l'heure à chercher plus de choses nouvelles et tout ça parce que à vouloir faire plaisir aux gens quand ils attendent à des choses que tu sais faire un peu par cœur, bah c'est vrai que tu peux t'endormir un peu sur tes lauriers, c'est pas très, en tout cas c'est tomber
toi,
dans une espèce de routine comme ça, et là je sens que c'est pas depuis très longtemps mais j'ai envie de sortir un peu de ça. Voilà.
Comment tu te présentes aujourd'hui?
Enfin,
est-ce que tu te présentes
comme
une assembleuse de goût?
Mais ça, c'était un truc de Fred. Non, j'allais dire, c'est pas moi, je me présente pas comme ça, mais les gens me présentent, c'est Camille de la buvette, comme si c'était une
non,
particule.
Mais est-ce que tu te...
De la buvette. Bah, moi, je suis pas...
Non mais tu te présentes, enfin comment
je suis
tu te sens, comment
parce
tu
que j'ai
sens,
pas, j'ai
est-ce que
pas
tu
la...
te sens sommelière, est-ce que tu te sens
non parce que j'ai même pas la formation académique pour ça, tu vois, il y a des gens qui ont fait des études pour ça, enfin
tu te sens,
oui je me sens restauratrice parce que finalement aujourd'hui j'ai créé des lieux qui reçoivent, enfin qui accueillent des gens pour manger et boire, voilà. Enfin, donc
qu'est-ce que tu vas marquer sur la fiche de renseignement de l'école quand ta fille tu vois, c'est ça aussi
pendant longtemps j'ai mis caviste,
ouais
voilà,
Et ouais, dans deux ans, dans un an, deux ans. Oula, ça va passer vite. Oui, je mettrais restauratrice, je pense. Oui, je mettrais ça. Ouais.
Les réseaux sociaux ont pris une place hyper importante dans la restauration et dans la vie même en général. Ils sont importants pour tes business aujourd'hui.
Bah, je peux pas dire non, tu vois, parce que oui, en toute objectivité, en fait, qu'on le veuille ou non, oui, ça a pris une place importante. C'est par là qu'on communique. En fait, aujourd'hui, enfin,
quand tu modifies tes horaires
à cause du Covid et tout, tu le mets sur ta page Instagram, quasiment plus sur Google ni sur ta propre porte, quoi. Tu vois. Enfin, non, mais c'est vrai. Quand tu dis ah, exceptionnellement, on est fermé aujourd'hui, c'est en story sur Instagram, quoi. Enfin. Après,
tu vois quelle part d'importance finalement ils ont. C'est une grosse part.
Bah moi je l'utilise parce que effectivement je me sens un peu obligée. Je l'utilise comme un outil. Tu vois, enfin.
C'est une contrainte.
Non, je m'en fais pas une contrainte. Je suis pas du tout du genre à me dire, oh, j'ai pas posté pendant une semaine. Enfin non. Non, mais c'est vrai que autant quand j'ai commencé Instagram, j'avais tendance à moins faire de frontières entre le pro, le perso et tout. Je mélangeais un peu tout. Autant c'est vrai que maintenant, je trouve que ça a pris tellement d'ampleur que je m'en cantonne à quand au même travail. À la buvette 99% de choses professionnelles et le compte de Baby Love, il a été étudié entre guillemets. Pour être un truc complètement pro et informatif qu'on veut, voilà, qu'on fait mignon, joli avec des belles photos et tout, mais voilà. Je suis un peu, je me protège un peu de ça. Je l'utilise parce que on est comme un peu obligé, mais j'en abuse pas. Tu vois, j'ai pas des milliers d'abonnements. Encore une fois, je supprime des trucs. En me disant bah non mais ça j'ai pas regardé depuis trop longtemps puis je m'en fous et en fait au final c'est un moyen de comment dirais-je d'avoir des nouvelles de gens enfin de vrais gens que je connais qui sont quand même principalement des amis en regardant tu vois c'est un peu con j'allais dire sans avoir envoyé un texto pour dire hey ça va quoi de neuf et en fait c'est con parce qu'il vaudrait mieux envoyer un texto pour dire hey ça va quoi de neuf tu vois.
C'est quoi le conseil d'entrepreneuse que tu donnes ?
Il faut pas avoir peur du risque parce qu'il y en a toujours partout, mais je pense qu'il y a moyen de bien maîtriser les risques pour qu'ils soient moins dangereux. Bah, je sais pas parce que ça peut passer par plein de choses, mais non, mais
après un deuxième épisode,
se faire confiance et. Et surtout faire les choses pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, comme vraiment au fond de toi, tu crois qu'il est bon de les faire. Et il n'y a pas de recette secrète, mais je crois que ça marche mieux comme ça que quand tu essayes de te dire tiens qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce qui va marcher. Je vais essayer de faire ça parce que je pense que ça marche moins bien, à mon avis. Ouais.
Tu disais tout à l'heure ressentir l'excitation de l'ouverture au premier jour, enfin de l'ouverture d'une affaire. Il y a d'autres projets dans le pipe.
Pour l'instant, il y aura sûrement quelques baby love en plus parce que c'est un modèle qui a été un peu pensé comme ça. Puis c'est un modèle qui est facile à dupliquer et qui est presque fait pour l'être, tu vois. Ce qui est pas le cas de la buvette. Voilà, moi pour l'instant mis à part suivre Jérémy dans ses pérégrinations de Baby Love parce que c'est un énorme kiff de bosser avec lui et voilà, je à un moment aussi de ma vie personnelle où je fais d'autres choses à côté. Donc voilà. Pour l'instant pas de projet. Puis dans quelques années peut-être j'en chercherai, mais pour l'instant j'en cherche pas, quoi. Voilà.
Bon, c'est la fin. J'ai l'habitude de demander une recette à faire à la maison. Tu nous as déjà parlé des haricots, ouais, donc peut-être autre chose, mais.
Eh ben un truc. Alors c'est pas une recette, hein, mais. Non, un truc que j'aime bien faire, c'est le brie à savarin. Tu sais, c'est ce fromage hyper crémeux qui est fait avec de la crème à la place du lait et tout, donc c'est hyper crémeux. Et ici, en fait, souvent, il peut être à la truffe. Mais sauf que moi, j'aime pas la truffe. Et bon, ça a jamais été trop mon truc et tout. Donc un jour, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je mets à la place? Et en fait, comme c'est un fromage très crémeux, qui a du goût, mais alors, je devrais pas dire ça parce que je vais m'attirer les foudres des défenseurs de la
pêche. C'est un goût léger, en tout cas.
Voilà,
enfin, c'est un goût.
C'est un goût assez neutre.
Ouais. Très crémeux, mais.
Tu peux facilement lui rajouter quelque chose, c'est ça que je voulais dire. mais quand t'aimes pas la truffe, tu dis, tiens, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Et donc ici, on le coupe en deux et on met, j'ai essayé avec du zaatar, ça marche hyper bien. Et on le fait souvent aussi avec du poivre fumé. En fait, il y a dans le centre de Paris, il y a une épicerie folle de Rollinger, le comptoir des épices, qui a une collection de poivres absolument incroyable. C'est fascinant d'aller goûter, déguster, sentir. Donc on le fait ici, on le fait beaucoup avec un poivre fumé. C'est hyper intéressant. Mais en fait, ça peut être
Tu mets en grain ou tu le mous?
Je le mous. Oui, parce que
tu dois en mettre une bonne couche.
Ouais, faut en mettre pour qu'il y en ait une couche bien noire, quoi. Enfin, voilà.
Et tu laisses infuser un peu? Enfin, un peu.
On fait un peu, des fois, on fait un peu au fur et à mesure. On essaie d'en avoir toujours un ou deux d'avance, mais, ça dépend. Ça va, c'est assez parfumé, donc il n'y a pas tellement besoin de le laisser reposer. Okay. Mais après, ça peut être en fonction. Moi, j'ai aussi ce truc où j'ouvre mon placard, je fais, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Enfin, tu vois, la recette des The Pickles pendant le confinement, j'étais dans une maison de campagne où il n'y avait pas des masses de trucs dans les placards. En tout cas, il n'y avait pas mes habituels furikake japonais, machin et tout que je trouve à Paris facilement. Et les œufs d'un coup, ils étaient jaunes d'or parce qu'il y avait du curry dans le fond du placard. Et voilà, enfin c'est ça aussi. Je veux dire, il faut être
créatif,
libre de ses inspirations. Ouais. Voilà.
Merci Camille.
Avec plaisir. C'était cool. Merci à toi.
Vous venez d'écouter Camille Fourmont, épisode 5 de la saison 5. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle et dans les verres, rendez-vous à La Buvette et chez Baby Love Burger, respectivement au 67 et 63 rue Saint-Maur à Paris 11e. Vous pouvez évidemment la suivre sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.